BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre soubresaut de l'après-midi chaque jour et jusqu'à 18h. BFM Bourse, bienvenue à tous. Il est là avec nous et nous accompagne en fil rouge Antoine Larrigaudry. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
On va parler de langueur. CAC 40 ne fait pas grand-chose, une chaleur de plomb. Il n'y a pas vraiment de conviction, on perd 0,09%, 8318 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris avec une tech qui a tendance à sous-performer, c'est quand même la grosse tendance du jour, moins 0,7 pour l'Euronext Tech Leaders. Même chose du côté de Wall Street, un Nasdaq moins 0,4 alors que le Dow Jones est quand même dans le vert à plus 0,1%. Et un Eurostock 50 qui lui perd 0,36%.
L'hésitation l'emporte donc aujourd'hui sur les marchés financiers. SKNX de son côté fait ses premiers pas à Wall Street. La plus grande introduction en bourse d'un groupe étranger sur le marché américain. Vous voyez, le groupe lève 26 milliards de dollars. C'est plus qu'Alibaba en 2014. Et puis la semaine prochaine, donc ASML qui va publier. Il y aura les banques américaines aussi. Les grandes banques américaines. JP Morgan ouvrira le bal des publications des banques américaines. Ce sera mardi, ce sera le 14 juillet. Les entreprises de S&P devraient annoncer des hausses de bénéfices en moyenne de 22,5%. Vous allez voir que sur le secteur de l'énergie, c'est encore plus spectaculaire. On attend une croissance de 121% grâce à la flambée des cours de l'énergie. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business au cœur de l'ensemble de l'actualité du jour, bien évidemment. D'abord, Xavier Niel qui pense à toi dans les télécoms mondiales. Le fondateur d'Iliad va devenir le premier actionnaire de Vodafone. Il s'est accordé avec l'Emirati Etisalat pour lui reprendre sa participation de 16% pour un peu plus de 5 milliards d'euros. L'autre grosse opération en cours, c'est autour d'EasyJet. Le fonds américain Apollo surenchérit sur l'offre de Castle Lake. EasyJet annonce donc un accord de principe avec Apollo pour une potentielle acquisition, le valorisant 6,7 milliards d'euros. EasyJet est en hausse d'ailleurs aujourd'hui, plus 14% à la Bourse de Londres. Et puis la canicule, le gouvernement déclenche pour la première fois le plan Orsec Chaleurs Extrêmes qui vient tout juste d'être présenté. Ce plan, il prévoit la création de centres de protection frais dans chaque département pour les publics vulnérables. 9 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui, 24 demain notamment en Ile-de-France. Plus de détails à nouveau dans 18-19 tout à l'heure. BFM Bourse, on est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp pour encore 56 minutes tout rond.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Ce soir, il nous accompagne Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Guillaume.
Dis bonsoir, faut que j'arrête. Bonjour, il fait beau, il y a beaucoup de lumière. Gabriel Caraboulade aussi est avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour Guillaume.
Directeur adjoint des investissements de Neuflis OBC. On est ravis de vous retrouver. Messieurs, on va parler dans un instant de SKNX parce que c'est tout un symbole. Juste l'état des marchés. Gabriel, là, comment vous les sentez en ce début de deuxième semestre? On a les marchés européens un petit peu hésitants. En fait, tout le monde attend les publications, on imagine, qui vont démarrer la semaine prochaine. Quelle impulsion vous en attendez de ces publications?
Bon, c'est mardi avec les financières américaines, on aura une tendance relativement importante. On a des marchés qui restent plutôt résilients. Aujourd'hui, j'entendais le mot précédemment sur l'antenne. Ce qu'on va attendre, donc, c'est la croissance des bénéfices qui est attendue très élevée du côté des entreprises américaines. Il y a un risque de déception qui est assez significatif. Mais c'est pas notre inquiétude principale, c'est plutôt au deuxième semestre avec les midterms et la mise en place réellement de la politique monétaire du nouveau board de la Fed qu'on aura vraiment des surprises de ce côté-là et des risques de volatilité plus importants.
D'accord, on parlera des grands enjeux du deuxième semestre effectivement, mais du côté des publications donc, est-ce que le marché risque de davantage réagir aux déceptions que saluer les bonnes surprises? Parce que le marché a acheté beaucoup de bonnes nouvelles déjà, est-ce que du coup il y a plus un risque de vendre massivement tout ce qui déçoit et puis pas forcément applaudir ce qui s'y réussit?
C'est vrai, d'autant plus que l'environnement géopolitique, on l'a vu, il y a une petite désillusion sur les perspectives d'amélioration de la situation en Iran, avec, on le voit, un conflit qui va rester plutôt larvé et des escarmouches qui vont se multiplier du côté du Moyen-Orient et qui pourraient peser sur les flux d'approvisionnement et les filières commerciales, donc passant et concernant particulièrement l'Asie, donc des marchés qui sont susceptibles d'être davantage à fleur de peau et de réagir de façon plus importante aux publications à partir de la semaine prochaine.
Kevin, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Est-ce que le marché sera plus prompt à sanctionner les déceptions qu'à applaudir les réussites?
Oui, c'est sûr que on a le droit de se poser des questions sur comment est-ce que le marché va interpréter les saisons de résultats, parce qu'on sort quand même d'un trimestre qui était le meilleur depuis le Covid. Il y a tout à payer, tous les différents styles, les grandes capitalisations, les petites et moyennes capitalisations, la qualité, la croissance. Il n'y a que la value américaine qui a moins bien fait que le reste. Donc ça pose question. Ce trimestre record, il s'est fait aussi dans un contexte où on a des résultats records. Et ça, je crois que c'est aussi important de l'avoir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le jeu, mais la séquence usuelle sur les résultats, c'est plutôt qu'on a, en début de période, des attentes de résultats qui sont élevées, et puis un consensus qui graduellement révise ses perspectives de résultats à la baisse. Cette année, on a une table complètement renversée par rapport à ça, c'est-à-dire que les attentes de résultats n'ont cessé d'être revues à la hausse sur toute la séquence jusqu'à présent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut quand même dire, je crois, que les marchés sont peut-être dans un contexte un peu plus robuste, ils sont quand même plus davantage prêts, je crois, à avoir un deuxième semestre positif, en tout cas attaquer cette saison de résultats avec, on va dire, une bonne dynamique. D'autant que on verra, on va dire, les chiffres que vous donniez, les 120% de croissance sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.
Ah non, juste, on contextualise, dans le secteur de l'énergie, on attend 120% de hausse des bénéfices aux États-Unis. 120% du fait de la hausse des cours de l'énergie.
Dans les semi-conducteurs américains, c'est 130%.
Bon. De hausse des bénéfices attendus.
De hausse des bénéfices attendus sur le deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025. Cette tendance-là, elle ne devrait pas durer qu'un seul trimestre. Ce sera également le cas au troisième trimestre, également le cas au quatrième trimestre, là où il faudra faire un petit peu plus attention, je crois, c'est que quand on rentre dans 2027, même sur la fin de 2024, ben ces taux de croissance-là, ils seront pas aussi élevés. Parce que c'est pas tenable d'avoir des tels taux de croissance. Et donc, c'est dans ces moments d'inflexion, je crois, qu'il faut faire un petit peu plus attention. En Europe, on a aussi une bonne saison de résultats qui nous attend. Alors, c'est pas aussi bien que les États-Unis, ça, on commence à s'y faire, de pas avoir des marchés qui sont aussi porteurs que ceux des marchés américains, mais on attend quand même tout de même 12% de croissance des bénéfices sur le deuxième trimestre pour l'ensemble des marchés européens, ce qui est quand même plutôt un bon cru.
Oui, est-ce que le secteur qui a été le plus acheté avec enthousiasme, à savoir la tech, s'il venait à ne plus être acheté, voire à être sanctionné, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle pour le S&P ? Je vous pose la question parce que, par exemple, les 7 magnifiques font plus grand-chose, elles ont un taux de sous-valorisation, en tout cas de décote par rapport au reste du S&P, ce taux de décote a un peu 10 ans. Et pourtant, le S&P progresse. On se disait, sans les 7 magnifiques, désormais, vu la concentration, le S&P pourra plus progresser. Il a besoin, le S&P, des 7 magnifiques. Là, on voit que même quand les 7 magnifiques sous-performe, le S&P lui parvient à s'affranchir.
C'est un très bon point que vous faites, Guillaume. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais dans ce trimestre record qui vient de se terminer, on a aujourd'hui plus de 30% des entreprises au sein du S&P 500, donc les grands indices d'action américains, qui sont sur des plus hauts. Donc cette hausse des marchés, elle a été beaucoup plus large qu'elle n'a pu l'être par le passé quand elle reposait notamment sur une poignée et demie et une poignée de valeur. Donc c'est un premier point. Qu'on ait cette forme, ce qu'on appelle un élargissement des moteurs de performance sur les marchés d'actions, je crois que c'est déjà en train de se jouer. Il y a plus de bénéficiaires des investissements dans le secteur technologique que on pouvait le percevoir il y a quelques trimestres de ça. Ça c'est un premier point. Après, la hausse des marchés, elle a été quand même très portée par quelques valeurs. Et donc, ces quelques valeurs-là, si elles font du surplace, c'était quoi
le langueur,
une forme de langueur sur ces grands acteurs, ces valeurs phares de la cote américaine, le marché américain devrait pouvoir continuer à monter. Si on a un vrai retournement sur ces valeurs-là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, étant donné la place qu'elles ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends les 10 principales valeurs du S&P 500, ça doit être 45, voire 50% de la totalité du marché. Donc, voilà, l'indice d'action américain, il est quand même tributaire de ces quelques valeurs-là. Ça, c'est un point. Et ensuite, s'il y a, on va dire, une forme de désengagement ou moins d'engouement sur certaines valeurs technologiques américaines, ça va bénéficier à d'autres sociétés, d'autres segments et d'autres marchés. Et je pense notamment à l'Europe. C'est-à-dire que c'est aussi un phénomène qu'on a vu cette année, c'est-à-dire qu'il y a eu un désengagement des investisseurs mondiaux des actions européennes pour aller investir sur le secteur tech américain. S'ils viennent se désengager un peu de ce secteur tech américain, ils iront chercher sans doute d'autres valeurs et peut-être qu'ils iront trouver en Europe.
Gabriel, vous pensez qu'effectivement cette saison de publication sera l'occasion d'un plus grand élargissement de la hausse des marchés, voilà, des performances qui peut-être de plus en plus iront profiter à des secteurs qui étaient en retard. Vous voyez venir ça, l'élargissement de la performance ?
Je pense qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire que la tendance qu'on observe sur les flux de capitaux européens et en particulier les achats des valeurs technologiques américaines et les tendances qu'on observe également sur les marchés américains, je pense que cette tendance devrait se poursuivre sur au moins 2 à 3 trimestres, donc avec des valeurs technologiques qui restent les stars des indices. Ce qui pourrait venir enrayer cette dynamique-là, c'est plutôt du côté de la Fed, je pense, où là, si on avait de mauvaises surprises sur les hausses de taux ou des anticipations d'inflation qui s'emballaient, avec notamment une poursuite de la, des tensions au Moyen-Orient, effectivement, ça pourrait venir mettre un grain de sable, mais sans ça, et c'est pas notre scénario, notre scénario principal, sans ça, ça restera donc les valeurs technologiques qui resteront donc les stars du marché et qui continueront de capter ce qu'on a pu voir avec SKNX récemment ou avec SpaceX au mois de juin, c'est-à-dire des montants records et une poursuite de la tendance sur le secteur. Du côté de l'Europe, malheureusement, je pense que l'amélioration n'est pas à attendre immédiatement, que ce soit du côté de la santé, de la technologie, de la défense, on en a parlé plus tôt cette semaine, donc on a de belles perspectives mais qui ne se concrétiseront du fait justement de l'inertie qu'on a au niveau des institutions et du politique européen que plus tard.
Oui, alors vous citiez SkyNix, c'est intéressant parce qu'on disait bon, il y a peut-être un peu moins d'appétit désormais sur ces acteurs qui ont cartonné, carte mémoire, semi-conducteur, on a vu des signes d'hésitation depuis deux semaines sur ces segments. Et donc, SKNX qui s'introduit à Wall Street, c'était un baromètre. Ça fait valeur de test quand même. C'est la plus grosse introduction en bourse d'un groupe étranger jamais vu à Wall Street. On attend toujours le prix en direct là, de SKNX parce qu'il y a beaucoup de carnets d'ordre à l'achat et à la vente qu'il va falloir très très vite déboucler. Pour l'instant, c'est compliqué. IPO sur souscrite 7 fois. Ça veut dire que la demande, de toute façon, est toujours
200
là
milliards,
sur la thématique. C'est 26 milliards et demi de levée d'argent. Ouais. Il lève 26 milliards et demi, c'est plus que les 25 milliards d'Alibaba en 2014.
Ouais, mais enfin, je veux dire, si j'étais un investisseur américain et que j'achetais que des actions cotées aux États-Unis, alors j'ai de la chance, j'habite en Europe et je peux investir un peu partout dans le monde, y compris en Corée. Mais si c'était le cas, quand on regarde, voilà, quel est son concurrent le plus proche aux États-Unis, c'est qui? C'est Micron. Là aussi, des trajectoires de performance qui sont absolument stratosphériques et qui se paye, qui s'achète un multiple de valorisation qui est plus élevé que SKNX, alors que les deux bénéficient pleinement de ces milliers de milliards qui sont investis dans la construction de ces centres de données, de ces cartes graphiques. Oui. Et donc, c'est sans doute ça qui vient motiver une entreprise comme SKNX, parce que c'est une entreprise qui est quand même extrêmement rentable. Elle vient pas se coter aux États-Unis pour aller lever une trentaine de milliards pour aller les réinvestir. Mmh. C'est sans doute pour voir cette décote, cette forme de décote coréenne qu'on peut voir sur, on le voit avec d'autres acteurs. Et donc cette décote,
tout le monde a une décote face à Wall Street en fait. Donc
ouais,
on vient
donc
chercher
voir cette décote se résorber un peu, et ce qui sera bien plus, on va dire, enrichissant pour une entreprise comme SKNX que d'aller lever 28 milliards.
Ouais, c'est que le début.
Elle génère quand même beaucoup de flux de trésorerie.
Ça va monter alors, ouais. Gabriel sur SKNX qui choisit Wall Street, donc de s'introduire aussi à Wall Street pour, c'est vrai, élargir son horizon, accéder à de nouveaux investissements, de nouveaux financements, ils en ont besoin. Le marché coréen est un peu étroit pour eux.
Marchera. Tout à fait. Les capex dans les semi-conducteurs sont absolument gigantesques pour les années à venir. On a des shortages de production, donc que ce soit sur la mémoire vive, on en a parlé sur le stockage. On peut citer des entreprises comme Marvel également qui bénéficient donc de cette tendance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. C'en est une mauvaise pour la diversification du S&P 500 et des autres indices. C'en est également une mauvaise pour d'autres secteurs. Je pense à la santé en particulier, qui bénéficierait bien de ces afflux de capitaux.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il va aller encore une entreprise qui va aspirer les capitaux au détriment d'autres.
Il y a peut-être un autre bénéficiaire, c'est le won coréen. C'est-à-dire que...
Alors la devise coréenne.
Ouais, alors même que l'économie coréenne, elle est en train de réaccélérer. Des taux de croissance économique supérieurs à 2%, on a des taux de banque centrale aussi, une banque centrale qui est en train de mettre un tour de vis, une économie coréenne qui boume, des marchés d'actions qui sont littéralement en feu. En dépit de ça, on a une dépréciation du won coréen. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'investisseurs internationaux comme nous-mêmes, quand on va acheter des entreprises comme SKNX, quand on a des cours de bourse qui s'apprécient de 10, 20, 30, 40, 50, 100%, qu'est-ce qu'on fait? Soit on écrête ces positions-là, soit on va couvrir le risque de change, et ça vient amener une pression baissière sur la devise. Et avec un instrument de cotation aux États-Unis, donc libellé en dollars américains, ça va possiblement, on va dire, réallouer une partie des flux, et donc on aura moins ces mouvements auto-entretenus qui viennent appuyer sur le won coréen, donc qui lui pourrait en bénéficier in fine. Ça pourrait venir, on va dire, infléchir cette dynamique qui est très technique ou propre aux des flux de capitaux liés à l'engouement du secteur technologique, les investisseurs internationaux pour le secteur technologique coréen, et qui viennent se mettre un peu en face des fondamentaux de l'économie coréenne qui irait plutôt dans le sens d'une devise qui s'apprécie.
Bon, c'est passionnant, effectivement, tant de choses en jeu en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Les publications en Europe, là, on se dit, il y a quand même moins d'attentes, donc peut-être moins de risques que des déceptions soient sanctionnées. C'est-à-dire qu'on va choisir dans les choix stratégiques plutôt le moindre risque ou prendre le pari du risque?
Le risque de déception, quand on regarde les attendus aujourd'hui, semble plus faible en Europe qu'aux États-Unis.
Voilà.
Assez clairement. On va regarder, bien sûr, ASML, toujours sur la tech européenne et les carnets de commandes. Mais là encore, c'est pour avoir une vision plus large sur les semi-conducteurs en Asie et aux États-Unis. Donc, sur la partie européenne, on fait le pari et on peut parier derrière. On peut parler de nos secteurs favoris pour le deuxième semestre, mais on a des secteurs comme l'industrie et le et la santé européenne, donc sur lesquels on attend de belles choses.
Alors,
on pense être agréablement surpris, en tout cas sur les résultats.
Voilà, on peut rentrer dans le détail. Pourquoi l'industrie ?
Donc, du côté de l'industrie, c'est d'une part pour la valorisation, c'est un peu l'éternelle question sur l'Europe, mais on pense qu'aujourd'hui il y a une possibilité donc d'amélioration des multiples sur l'industrie qui est assez clairement positive, bénéficiant et des plans type Draghi, de l'investissement, des investissements de souveraineté en Europe, des revalorisations et des investissements plus nationaux, je pense à l'Allemagne, évidemment. Et sur la partie santé, là, c'est plus un effet Trump qui est passé, un effet tarif qui devrait, et qui est pour nous plutôt surpricé par rapport aux dernières discussions qu'on a eues sur le prix des médicaments et sur l'alignement des États-Unis sur le plus bas prix de médicaments, qui est souvent le prix européen d'ailleurs, ou même le prix français en l'occurrence. Et donc là-dessus, c'est plutôt source de bonnes surprises, je pense, pour les annonces qu'on va avoir cette semaine et la prochaine.
Oui, donc la santé et l'industrie européenne, pourquoi pas mieux que Wall Street. En tout cas, dans vos arbitrages, vos choix allocataires, c'est plutôt là-dessus que vous avez envie de pousser le plus de feu, quoi.
C'est plutôt en relatif sur l'Europe. Et c'est des paris qui sont européens. À côté de ça, nous restons assez fortement exposés aux États-Unis et à la tech en particulier.
Ouais. Kevin, les choix stratégiques, là.
Sur l'industrie, on préfère regarder, on va dire, l'aérospatiale que la défense.
Et parce que dans l'industrie, vous incluiez la défense, j'imagine, Gabriel. Il y avait aussi la défense.
Pour nous, la défense, enfin, voilà, je veux dire, les grands enjeux de dépenses, que ce soit, voilà, les plans allemands ou Monsieur Macron qui, on va dire, petit à petit s'approche des quoi, les 3,5 de dépenses dans le secteur de la défense demandé par l'OTAN. Toute cette séquence-là, je crois qu'elle est, relativement bien balisée par les investisseurs. Mais le marché, il a couru plus vite que les résultats. C'est-à-dire que le narratif de marché, il était très vrai, où il s'est mis en place en début 2025. Et depuis, on voit le secteur de la défense qui fait un peu du surplace. Pourquoi ? Parce que la réalité économique d'une entreprise du secteur de la défense, c'est pas tout à fait la même que celle des marchés. C'est-à-dire que on a, bien, dans un premier temps, des annonces politiques, puis ensuite, il faut les mettre en place. Il y a des appels d'offres, il y a toute la séquence administrative qu'on peut connaître. Dans le même temps, on va dire, livrer des chars, des drones, des avions, des frégates, ça prend du temps. Et donc, entre le moment où la commande est passée et où, on va dire, le livrable est livré, ben, il se passe du temps. Et ces entreprises-là, elles sont plutôt payées, on va dire, en fin de contrat, et donc on peut avoir, on va dire, cette période un peu de flottement, c'est-à-dire que voilà, si je prends les superstars allemands, les Rheinmetall par exemple, ben, ils ont en 2025 dit que voilà, les perspectives de croissance des ventes allaient augmenter de 30% sur un horizon 4-5 ans. C'est sans doute très vrai, sauf que bah, ça va plutôt arriver à la fin de la décennie que...
Oui, mais à un moment, faut bien payer ça.
Ouais,
c'est déjà
donc,
payé.
Donc ça prend un temps. Oui, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que on a aussi une séquence, c'était quoi, semaine dernière ou la semaine d'avant, on a eu par exemple des contrats pour un achat de frégate
qui a été
annulé, alors même qu'il y a une volonté très forte des autorités allemandes et européennes globalement d'aller investir dans le secteur. Donc, même dans ce contexte-là, on n'est pas à l'abri que bien, ça ne se passe pas exactement comme attendu. Et quand, là aussi, je parle de Rheinmetall, mais ça peut être vrai pour d'autres, quand on a un acteur comme Rheinmetall qui s'échange en début d'année à 37 fois les résultats de 2026, il n'y a pas beaucoup de place pour la déception.
Et là-dessus, j'ajouterai un point, pardon, sur le qui fait qu'on reste positif sur cet aspect de l'industrie lié à la défense, c'est qu'effectivement, on a eu un aspect tactique avec pas la fin des hostilités, on le voit, s'en est loin, en Iran, qui a pesé sur le secteur globalement de la défense. Pour autant, la tendance de fond, donc qui est l'investissement national des pays européens, donc les investissements nationaux dans la défense, celui-là est toujours là, et on voit. On parlait du contrat de Rheinmetall qui a été de Damen qui a été annulé donc sur les frégates. On a eu l'annonce aujourd'hui qu'il est remplacé par un contrat de plus de 3 milliards d'euros pour 4 frégates. C'est un prix qui est absolument délirant quand on regarde les prix de ce qui s'est fait dans le reste de l'Europe, aux États-Unis ou en Corée. Et donc, ça signifie une chose, c'est que les pouvoirs publics sont toujours prêts à subventionner leurs industriels pour pouvoir leur donner plus de puissance dans les années à venir. C'est ce qui nous fait dire qu'il y a une marge de progression encore sur les valorisations.
Ouais, mais il y a aussi des concurrents qu'on ne va pas forcément venir, alors que l'OTAN s'est réunie en sommet en début de semaine. Kevin, vous avez repéré justement le poids croissant d'un pays dans ce segment de la défense, ouais. C'est la Turquie.
Oui, c'est la Turquie, les exportations d'armes en Turquie sur la période 2021-2025, c'est plus 122% par rapport aux années précédentes. Et la Turquie est devenue le troisième principal exportateur d'armes de petite taille. Les pistolets, les drones notamment. Là, on a un acteur turc alors, qui n'est pas coté. On ne peut pas y investir en direct. Mm-hmm. Il s'appelle Baykar, qui représente à peu près 60% des exportations globales de drones. Donc la Turquie s'est vraiment spécialisée sur ce segment-là. C'est sans doute pas un hasard si M. Erdogan a offert aux différents membres de l'OTAN un pistolet six coups gravé au nom des uns et des autres.
Attendez, le sommet de l'OTAN a eu lieu donc en Turquie. Recep Tayyip Erdogan était le grand hôte des festivités. Il a offert à chaque leader de l'OTAN
un pistolet gravé au nom de voilà. Bon,
je pense que c'est un beau cadeau, un
clin d'œil, mais enfin bon.
La différence avec les cadeaux offerts par les dirigeants occidentaux à leur hôte turc était quand même marquante. On a vu Mark Carney, du Canada, qui a offert du sirop d'érable, un autre dirigeant occidental qui a offert à Recep Tayyip Erdogan un vélo. Oui. Et donc c'est un bon rappel que pour se payer un modèle occidental, je pense en particulier à notre modèle social et aux investissements de défense, il faut du travail, il faut une économie qui tourne. Et aujourd'hui, les Turcs semblent peut-être plus axés sur les points importants que peuvent l'être certains pays occidentaux. Et on le voit dernièrement, donc que ce soit en Italie avec Leonardo ou en France avec Thales, qui est-ce qu'ils sont allés chercher pour leurs investissements liés aux drones et pour acquérir de la technologie sur le sujet? C'est des partenariats avec Baykar.
Ouais. Ouais. Alors on poursuit nos échanges, messieurs, on est à 11 minutes de la clôture, on avance, on entre dans la dernière ligne droite. Et on est toujours en petite baisse là sur le CAC 40, une séance presque pour rien, moins 0,04%, 8323 points. Lanterne rouge, c'est la suite d'un abaissement d'objectifs de cours. Thalès recule d'1,9%. On a aussi Safran dans la défense, on en parlait de la défense qui recule d'1,2%. Et puis dans la tech, on repart à la baisse sur STM qui avait bien progressé hier. Aujourd'hui, STM repère 1,2%. À la hausse, un relèvement de pignon sur ArcelorMittal. Le titre gagne 6,5% ce soir. Plus forte hausse du CAC 40. Et puis hors CAC, EasyJet qui finalement accepte l'offre d'Apollo. Apollo qui a surenchéri face à Castle Lake et donc finalement EasyJet gagne 14% à 6,71 en ce moment. On parle de toutes ces thématiques avec Kevin Tauzet pour Carmignac et Gabriel Caraboulat pour Neuflis OBC. Juste un petit mot de l'once d'or parce que le premier semestre aura été très compliqué pour l'once d'or quand même. On a assisté cette semaine au lancement d'une bourse de l'or à Hong Kong. Pour essayer, Hong Kong, les Chinois veulent essayer d'échapper à l'hégémonie, en tout cas réduire leur dépendance à l'hégémonie américaine et britannique sur le marché de l'or en lançant leur propre bourse internationale de l'or. Alors l'or libellé en renminbi en l'occurrence. C'est toujours cette dédollarisation et cette émergence d'un nouveau monde qui se confirme aussi via le marché de l'or, Gabriel.
Une tendance de fond qu'on a vue d'abord sur la dette américaine, alors qui est contrecarrée avec une Fed qui propose maintenant des effets de levier et de nantir la dette américaine détenue pour obtenir des facilités de crédit. Mais la tendance est là, c'est-à-dire donc des réserves de change qui sont de moins en moins investies en dollars, en particulier en Asie. On l'a vu ensuite sur les échanges de matières premières pour le pétrole, à la faveur de ce qui s'est passé d'abord en Russie, en Ukraine, puis en Iran. Et maintenant, c'est l'or, c'est une suite logique dans une tendance qui est une tendance de fond, qui va se poursuivre. Et donc, une menace de l'hégémonie américaine, qui a encore une bonne marge, une bonne avance hein, sur le reste des économies, mais qui est petit à petit une Chine qui lui taille des croupières.
Oui, et utiliser l'or pour, comme vecteur d'internationalisation du renminbi, du yuan, puisque voilà, dans cette bourse de l'or à Hong Kong, on libelle en renminbi.
Il y a eu des contrats sur les matières premières, notamment énergétiques, libellés en renminbi, principalement voilà, à destination des échanges russo-chinois. Je crois que cette dynamique-là d'être, voilà, d'élargir, on va dire, des actifs de réserve au-delà des grandes devises de réserve, c'est une réalité. Il faut qu'on ait encore au moins une demi-heure, une heure pour en parler, mais je ne crois pas que, que la séquence, ou que la lisibilité ou la faible lisibilité des autorités américaines, qu'elles soient monétaires, budgétaires ou présidentielles, renforce la crédibilité du dollar américain. C'est sans doute une lame de fond.
Quels seront les enjeux, alors au-delà des publications des entreprises dont on vient beaucoup de parler, voilà, quels seront les enjeux du deuxième semestre sur les marchés? Qu'est-ce que vous allez regarder d'autre à part ceux dont on vient de parler, Kevin?
On le disait un petit peu tout à l'heure, je crois qu'il y a ce point d'interrogation-là, c'est-à-dire, est-ce que Kevin Warsh bluffe ou pas? Est-ce que c'est des mots ou est-ce que ce sera des actes? Est-ce que c'est plutôt Machiavel ou est-ce que c'est plutôt Volcker? Quelque chose comme ça. Donc ça, je crois que c'est la grande interrogation, puisque globalement, je crois qu'il y a très très peu, voire aucune classe d'actifs qui est prête à affronter, on va dire, une politique monétaire américaine beaucoup plus restrictive. Donc ça, je pense que c'est la grande question. Il y en a d'autres, on n'a pas un petit peu parlé du yuan coréen, il y a aussi une dépréciation très forte du japonais, il y a aussi des tensions potentiellement importantes sur les marchés de taux japonais, le yen japonais qui a été une devise d'emprunt très importante pour aller chercher tout ce qu'on appelle stratégie de portage, on vend du yen et puis on va acheter la lire turque, peut-être un peu sportif, mais du peso mexicain. Si on a ces mécanismes de débouclement là, c'est quelque chose qui pourra bouger. Et c'est vrai que le dollar yen à 160, c'est des niveaux qui aident beaucoup les entreprises japonaises. On a un surplus des comptes courants qui est absolument record, on n'a pas vu ça en 30 ans. La faiblesse du yen y est pour beaucoup. Sans doute que ça va commencer peut-être à un moment à énerver un petit peu Monsieur Bessent et le ministre des Finances américain. Donc ça peut être un deuxième. Les élections de mi-mandat, mais je serais ravi d'être contredit. Ah. Pour moi, c'est moins un enjeu, parce que j'ai l'impression que les marchés s'y sont préparés. On va avoir ce qu'on appelle un canard boiteux aux États-Unis, donc un président qui n'aura pas la chambre basse du Congrès avec...
Qui n'aurait aucune des deux chambres ?
Non, Sénat, je crois qu'a priori, la garde, s'il ne garde pas le Sénat, là, ça pourrait être un peu plus rock'n'roll, parce qu'on aura toutes ces procédures de destitution qui auront plus de chances de passer. Mais
et généralement, quand les deux chambres ne sont pas d'accord, un de nos experts nous disait, quand les deux chambres ne sont pas d'accord, c'est plutôt bon pour le consommateur, parce que justement, le seul point sur lequel elles sont d'accord, c'est l'augmentation des dépenses.
Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que en général, et on le voit chez nous, on va aussi avoir des échéances électorales. En général, échéance électorale et orthodoxie budgétaire, ça fait pas vraiment bon ménage. Je partage un peu.
Donc la résorption des déficits et de la dette américaine,
ce qui rassemble sans doute et démocrates et républicains, c'est que on a le bas de la jambe du cas, donc une grande partie des ménages américains, donc avec les revenus les plus faibles, qui subissent.
Et Pepsi l'a dit hier dans sa publication. Pepsi a expliqué qu'en Amérique du Nord c'était compliqué pour les ménages et il le voyait dans le panier des consommateurs. Effectivement, Pepsi qui avait publié hier et qui a beaucoup souffert, ça donnera peut-être le là d'ailleurs des publications américaines qui vont démarrer dans quelques jours. Ici en France, on va entrer dans la campagne présidentielle aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que pendant cette campagne, du fait de la campagne et puis tout simplement du fait de notre contexte, notre en français passe la barre des 4% prochainement. On a bien monté cette semaine.
Très probable. C'est très probable, d'une part, parce que compte tenu des finances sur le reste de la zone euro, la BCE est peu susceptible d'intervenir spécifiquement sur la France.
Trop isolé dans sa dérive, quoi.
Voilà. Quand on regarde donc, du côté des finances publiques et de ce qui va probablement se passer à la fin de l'année, donc au Q4 sur les discussions sur le budget, c'est-à-dire en pratique des discussions assez lunaire, avec des propositions de dépenses dans tous les sens qui seront évidemment pas votées, on repartira finalement pour un budget qui est le budget actuel, avec quelques ajustements à venir en début 2027. Et les quelques mouvements qu'on peut avoir, c'est plutôt des concessions qu'on a pu avoir, comme celle de Le Cornu sur la retraite, et donc qui vont absolument pas dans le sens de la rigueur budgétaire. Donc jusqu'à la présidentielle, il est peu probable qu'on ait un mouvement, changement de tendance sur la dette française.
Les 4%, on risque de les avoir pendant la campagne, ça peut être un déclencheur, la campagne.
Et le problème, c'est que, on est 3,75 au moment où on se parle, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors, je sais que c'est pas la saison, mais c'est quoi l'effet boule de neige? C'est quand on a, en fait, la charge d'intérêt qui croît plus vite que la croissance potentielle. La croissance potentielle, en termes réels, c'est 1%, on rajoute 2% d'inflation, ça fait 3%. Donc, quand vous avez la charge d'intérêt qui est supérieure à 3%, vous, mécaniquement, en ne faisant rien, le poids de la dette augmente, et on y est déjà.
Oui, on serait curieux si Christine Lagarde quitte prématurément son poste à la BCE, parce qu'elle l'a laissé entendre, clairement. Ouais. Elle voudrait, pourquoi pas, elle n'a pas dit qu'elle le ferait, mais elle, pourquoi pas, envisage de participer à la campagne, pas forcément en étant candidate, mais pour apporter les idées européennes dans cette campagne. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue, parce que là, elle devra se lâcher, elle ne serait plus présidente de la BCE, son point de vue réel sur l'état de la France et les solutions.
Ouais, on n'est pas que premier au football, on est aussi premier au niveau de taux d'emprunt sur les maturités 2, 3, 5, 10 ans.
C'est ça, ouais, champion du monde.
Les Anglais sont devant nous, peut-être.
Oui. On s'attend peu à des changements, enfin que Christine Lagarde reste ou qu'elle parte.
Ça change rien, Gabriel.
On s'attend pas à des changements fondamentaux dans la politique de la BCE. Ce serait relativement logique compte tenu de son parcours personnel et des prises de parole qu'elle a pu avoir dernièrement. Est-ce qu'elle sera regrettée après? Ça, c'est un autre sujet.
Allez, on poursuit nos échanges. Dans un instant, la clôture, on va la vivre dans 3 minutes avec Antoine. Il est 17h32. On entre d'abord dans la Data Room. C'est votre bar à data chaque soir, le happy hour, là, juste avant la clôture du week-end. Kevin et Gabriel, est-ce que vous êtes prêts avec de belles data à nous offrir?
Oui, toujours.
Gabriel, on démarre avec vous. Votre chiffre ce soir, 1000.
1000, c'est le nombre de tonnes que va peser le solénoïde du tokamak ITER. Alors, beaucoup de mots abscons.
Il faut nous expliquer, oui.
Beaucoup de mots abscons. Le tokamak ITER, qu'est-ce que c'est? C'est un prototype de réacteur à fusion, donc pour la fusion nucléaire. On a beaucoup parlé ces derniers mois d'énergie, on a beaucoup parlé de souveraineté, et un des véhicules de souveraineté énergétique justement en Europe, c'est le nucléaire. Le nucléaire qui est aujourd'hui un nucléaire polluant pour des sujets d'émissions et de radioactivité. La solution, c'est la fusion nucléaire, justement. Et l'un des aspects sur lesquels l'Europe est le plus en avance, même si c'est un projet international, c'est en France qu'il se passe, c'est justement sur ce prototype de réacteur à fusion, ITER, qui détient le record mondial aujourd'hui, 22 minutes de fusion tenue, donc qui a cassé le record chinois de près de 25%. Et la sixième partie de ce solénoïde, donc de ce donut géant qui va contenir la réaction de fusion, vient d'être installée. Donc c'est un projet qui avance bien et on en attend de nombreux autres records et possiblement des solutions pérennes et à très long terme sur la souveraineté énergétique.
Ce serait l'énergie illimitée, si on y arrive. On y arrivera un jour, on sait. La question c'est quand et qui en premier. Voilà.
C'est la miniaturisation d'une étoile.
Exactement.
La réaction de fusion, c'est
ITER.
Exactement ça.
C'est ITER. Dans le sud-est de la France que tout ça se situe.
À Cadarache.
À Cadarache. Hey, belle data que vous nous livrez ce soir, et peut-être un jour la France accédera-t-elle à l'infini énergétique grâce à la fusion. À vous Kevin, votre chiffre aujourd'hui, 4.
4, donc 4 c'est le nombre de semestres que le groupe Renault est plus profitable que des groupes allemands comme Mercedes ou BMW.
Oui.
Voilà, donc la marge brute d'un groupe comme Renault, plutôt autour de 18%, c'est 2 à 4 points de pourcentage de mieux que ses concurrents allemands. C'est quand même étonnant quand on pense que Renault vend des voitures à 30 000 euros et Mercedes c'est plutôt 70 voire 150 pour les modèles les plus prestigieux. Voilà, comme quoi ce qui était vu comme on va dire la ruine de Dacia, en fait a peut-être amené plus de profitabilité que vendre des voitures de luxe. Alors plusieurs raisons à ça. La première, c'est que quand même on a eu un certain nombre de restructurations au sein du groupe français qui n'ont pas encore eu lieu dans les groupes allemands. Ils sont en train d'être annoncés. Pour rappel, on a Volkswagen qui va limoger à peu près une centaine de milliers d'employés dans le groupe. Hein. Pour rappel, il y a à peu près 300 000 employés chez
Volkswagen. On apprend d'ailleurs que BYD a tenté non pas une, mais deux prises de participation au capital de Renault avant 2025.
Ah, donc la course n'est pas finie.
Quatre semestres consécutifs que Renault, donc deux ans de suite, hein, que Renault est plus profitable que Mercedes et BMW. Mais oui, il ne faut pas nous oublier non plus les petits Français. Là. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Kevin Tauzet pour Carmignac et Gabriel Caraboulade pour Neuflys OBC. Merci, bon week-end à tous les deux. Dans un instant, la dernière clôture de la semaine, on va la vivre avec Antoine, puis vous apporter un max d'idées de pépites pour vos portefeuilles. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Oh, comment termine-t-on aujourd'hui ?
On parlait de torpeur, on parlait de langueur. Déjà, les volumes d'échanges commencent à se raréfier. Hein. 2,8 milliards, c'est vraiment pas beaucoup.
On entre dans l'été, là. Hein.
Voilà. Et du côté de la tendance, pas grand-chose. Hein. Plus 0,15, on termine quand même dans le vert, 8 338 points. Moins 0,65 pour la tech qui a sous-performé, hein, l'Euronext Tech Leaders. Du côté des autres indices européens, moins 0,23 pour l'Eurostock 50. Tu as un pied à noter quand même Madrid qui termine en hausse aussi, plus 0,27%. Du côté des valeurs qui ont signé les plus fortes hausses, l'automobile quand même, hein, le secteur s'est bien redressé aujourd'hui. Enfin, faut voir d'où il revient, mais plus 3,6 pour Stellantis, 4,84 Renault, plus 2,06 25,81. C'est ArcelorMittal qui signe la plus forte hausse du jour à plus 6,42. 58,02. On a eu des abaissements de recommandations, puis aussi une tendance négative de manière générale sur l'ensemble des secteurs de la défense, de l'aéronautique. Thales a perdu 1,5% à 223,30€. Safran, moins 1,15 à 336,10€. Et ST Microelectronics qui perd 1% à 62€. Un petit coup d'œil sur le SBF 120, sur l'indice large. Soitec signe la plus forte baisse, à moins 5,9% à 98€. Vous savez, c'est les journées de balancier avec des semi-conducteurs, tout l'un, tout l'autre. Là, c'est la baisse qu'il a emportée. ArcelorMittal signe la plus forte hausse du SBF 120, suivi par Aperam, le spécialiste de l'inox. Lui gagne 4,3% à 45€, donc bonne pioche pour la métallurgie, mais pas grand-chose d'autre à signaler.
Oui, avec un relèvement d'opinion d'ailleurs qui aura favorisé la hausse aujourd'hui sur le segment métallurgie, effectivement, notamment pour ArcelorMittal. Gilles Santacreux, tiens, est avec nous, boursicoté.com. Rebonsoir Gilles. Bon, un petit plus 0,15 ce soir en clôture dans de très maigres volumes avant les publications qui vont démarrer la semaine prochaine, bien sûr. Quel signal envoie cette séance pour la suite, Gilles ?
Le signal d'une non-reprise, on le voit au niveau des États-Unis avec la baisse que nous avons eue mercredi, ça a plutôt tendance à bien repartir, on teste des signaux haussiers là actuellement. Mais en fait, tout s'est joué mercredi hein, sur l'indice parisien. On a eu cette forte baisse et puis autant sur la séance d'hier que sur celle d'aujourd'hui, on a très peu de volatilité, très peu de volume. Je crois que la volatilité pour aujourd'hui, on est à 0,8%. On a des volumes qui sont anémiques, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc en fait, on a été beaucoup plus perméable à la baisse qu'à la hausse hein, cette semaine et je dirais que c'est pas très encourageant pour la suite. Donc effectivement, on se rappellera quand même que l'on a préservé la zone des 8250 points, que l'on termine même au-dessus des 8300 points. D'un point de vue hebdomadaire, cette semaine elle n'est pas terrible, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Donc on verra avec les résultats la semaine prochaine si ça se passe mieux. Mais je dirais qu'on a évité le pire, je dirais, cette semaine par rapport à la configuration géopolitique.
Vous nous accompagnez, Gilles, jusqu'à 18h. On va tout de suite refaire la séance. Vous apportez à vous qui nous suivez un maximum d'idées de pépites. C'est parti.
BFM Bourse. On refait la séance.
Avec, ils viennent de nous rejoindre, Julien Kistrebert-Telorem. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Et Stéphanie Mauger. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Guillaume.
Gérante privée, la financière d'UZES. Donc une séance pour rien, tout le monde attend maintenant les publications. On va rentrer dans le dur la semaine prochaine avec ASML. Ah, ce sera mercredi, le 15 juillet. Alors il y aura les banques américaines, ça va démarrer le 14 juillet, hein, JP Morgan. Et donc ASML ici en Europe le 15, mercredi. Quelles sont vos attentes pour ASML ? Puis après je vous poserai la question sur les entreprises françaises. ASML, Stéphanie.
ASML, oui, on attend certainement des bonnes choses, même si on sait bien qu'aujourd'hui, sur cette thématique des semi-conducteurs, les attentes sont là, et quand on publie ce qu'on a attendu, c'est pas forcément ça qui fait monter. Hein. On a eu la publication de Samsung au début de semaine, qui était incroyable, mais qui finalement a baissé dans les deux séances consécutives. Donc ASML, il faut pas oublier, c'est déjà plus 70% depuis le début de l'année, hein, tout le secteur, les ASMI plus 76, les BESI plus 90, quand on est aux États-Unis, c'est des plus 100, plus 100, Samsung, Intel, etc. Donc voilà, c'est un secteur qui a déjà très très bien performé, qui a contribué de manière très significative à la hausse notamment de l'Eurostock 50 parce que c'est un des gros poids. Donc on attend plutôt des bonnes choses, mais avec pas forcément une réaction dans les cours, dans la foulée, parce que c'est déjà, la performance est déjà belle.
La corde est-elle un peu usée? ASML, qui est en retard quand même sur les techs américaines, même si c'est la plus grosse européenne, qu'est-ce que vous attendez comme réaction à la publication?
Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, hein, puisque le groupe va certainement relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Hein. Pour l'instant, ils avaient été assez prudents sur l'objectif de croissance organique, donc ils devraient se rapprocher des 20% en termes d'objectifs. Ce qui sera attendu aussi dans le message, c'est pour 2027, hein, combien de machines ils pensent pouvoir livrer sur la technologie EUV, puisqu'on vise entre 90 et 100 machines. 100 machines, ce serait l'idéal. Donc ce serait plutôt des bonnes choses. Et après, effectivement, sur l'aspect valo, on est revenu sur les plus hauts, hein, qu'on a connus sur ce dossier, hein, 45 fois les résultats. Ce qui rend les gens optimistes, c'est de se dire, historiquement, le groupe avait plutôt une prime par rapport à ses pairs américains, assez significative, et maintenant, il y a une décote. Alors, la question est de savoir, c'est est-ce que la valorisation des sociétés américaines est justifiée? On trouve que c'est un peu excessif de ce côté-là. Donc, effectivement, 45 fois les résultats, c'est une très belle société, encore une fois, il n'y a pas de débat. Ça semble bien dans les cours.
Alors, Gilles Santacru est avec nous. Gilles, ASML, vous la sentez comment graphiquement pour sa publication qui approche? Ce sera jeudi prochain.
Graphiquement, on est sur une très belle tendance, hein, puisqu'on a cassé une résistance à 1 308 € pour aller s'afficher sur un record au-delà des 1 700. Là, on a consolidé depuis quelques jours, et notamment cette semaine, mais enfin, on reste à 10% quand même de ces records. Donc avant, effectivement, cette publication, on reste dans une configuration technique qui reste haussière. La consolidation est tout à fait mesurée, donc les perspectives sont encore plutôt bonnes actuellement.
À Paris, Julien, quelle sera la publication pour vous à ne pas rater, celle qui pourrait le plus transformer le potentiel d'une valeur?
On attend surtout les sociétés, je dirais, qui ont été le plus attaquées. Hein. Je pense à certaines petites valeurs comme Vision Group, hein, qui ne s'est pas totalement relevé des notes, qui disait que finalement le contrat Walmart allait s'arrêter, les chiffres allaient être un petit peu difficiles en termes de croissance. Donc je pense qu'ils vont être assez attendus sur ce type de publication. Hein. On rappelle que le titre a quasiment divisé par deux, hein, par rapport au plus haut. Certainement de CRSI aussi qui va être attendu, hein, avec tout.
De CRSI.
Tous les bruits qu'il y a eu sur ce dossier, les hedge funds qui l'ont attaqué. Donc je dirais que c'est.
Et publiquement, vous avez une idée
de la date en tête. Mais globalement, c'est les sociétés qui ont été très attaquées comme ça, sur lesquelles on sera vigilant. Après, d'une manière générale, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes sur les publications, hein, puisque les sociétés, en tout cas, on a une bonne visibilité en tout cas sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc pas de publication.
Une vigilance sur les sociétés qui ont été attaquées, Vision donc et 2CRSI à l'occasion de leur publication. Vous, Stéphanie, quelle société française vous surveillerez le plus sur les publications?
Alors la semaine prochaine, il y a ASML, après il y a Publicis qui est un beau dossier aussi, à notre sens, qui n'est pas très cher. La semaine prochaine, directement, il y a une petite société qui nous consuit beaucoup, qui est Atem, qui a pas mal fait parler d'elle, parce que d'abord, le parcours boursier est déjà très beau. Et puis, il y a vraiment toute cette notion de souveraineté.
Ils font quoi, Atem?
Pardon?
Ils font quoi, Atem?
Atem, ils font des logiciels pour la compression vidéo, notamment pour tout ce qui est streaming. Quand vous êtes sur Canal+, l'app Canal+, vous utilisez leur solution, etc. Ah, il y a Antoine qui...
Skynix.
Ah,
ça y est.
Bon, c'est priorité au direct. On prendra sur Atem juste après. Depuis le début, on attend Skynix.
Ça fait un moment qu'on l'attend. $170. $170, donc on est sur une hausse de 15-16%.
D'accord, voilà, pour les premiers pas de Skynix, donc sur le marché américain, plus grosse intro d'une entreprise étrangère à Wall Street, il lève $26,5 milliards, c'est plus qu'Alibaba en 2014. Voilà. Et il fallait le dire, effectivement, et c'est la priorité au direct. C'est dans BFM Bourse que vous vivez les marchés de l'intérieur. Atem, donc, A-T-E-M-E.
A-T-E-M-E, exactement. Après, on peut aussi se tourner vers le secteur de l'automobile qui a été quand même très pénalisé. Je pense à peut-être un OP Mobility, qui est une société qui est très, très bien gérée, qui a beaucoup rebaissé et qui, je pense, devrait plutôt publier des très bons résultats, notamment en termes de génération de cash. Toute cette thématique automobile, on l'aborde un peu par un autre angle maintenant, l'angle de la défense, hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va avoir besoin de toutes ces sociétés, les Renault, les Michelin, les Valeo, pour produire un certain nombre de choses. Donc voilà, ça peut donner des biais un peu différenciants sur des dossiers qui ont été un peu attaqué.
Ce soir, ArcelorMittal termine en tête du CAC. Il y a un relèvement d'opinion sur ArcelorMittal. JP Morgan qui passe de sous-pondéré à neutre. Alors, je sais pas, ça vous aimez bien ce genre de valeur ArcelorMittal, Julien, d'habitude? Non, vous aimez pas trop en parler?
Si, j'ai une époque où j'en ai eu beaucoup, mais oui,
c'est ça, je vous associe aux sidérurgistes, je ne sais pas pourquoi.
Il y a très longtemps, ouais.
Plus forte hausse du CAC.
Très, très longtemps, ouais. On était, enfin, dans une société où je travaillais, on était grosse position sur Arcelor et sur Corus. Oui,
et puis, je vois là-dedans. Vous êtes à vendre sur ArcelorMittal. Vous êtes plutôt à vendre, en fait.
Ouais, ah, tout
pardon.
À fait. Ouais.
Je vous associe, mais pas dans le bon sens. Okay.
Aujourd'hui, oui, plutôt à la vente. Bon, tout simplement, effectivement, on a l'activité américaine sur l'acier qui est bien orientée avec les systèmes de tarifs. Donc ça, c'est le point positif. L'Europe, c'est un peu plus compliqué, hein, inflation sur les coûts. La partie minière, si les volumes sont bons, on a des sujets sur les coûts de transport et de fret qui vont peser un peu. Mais globalement, je dirais que les résultats vont être solides. Voilà, la valorisation est quand même relativement haute pour une cyclique aujourd'hui. Donc, nous, on est plutôt à
vendre, alors que Stéphanie, elle est prête à acheter vos titres ArcelorMittal. Elle est à l'achat.
Alors, je suis positive. Moi, je trouve que c'est une société qui a une rigueur de gestion incroyable. On voit d'ailleurs la très bonne allocation de leur capital qu'ils ont faite avec Vallourec, hein, qui est, ils ont revendu 10%. Ils étaient rentrés pour mémoire en mai 2024 à 14 euros. Ils ont revendu, ils avaient repris 28% de Vallourec. Ils en ont vendu 10% à 26 euros, plus les dividendes qu'ils ont encaissés. Donc, voilà, je trouve qu'Arcelor, effectivement, est une valeur cyclique, mais qui, aujourd'hui, pourrait bénéficier quand même aussi d'un relâchement sur la tension sur le pétrole. On peut redémarrer sur un certain nombre de projets de réindustrialisation, de défense, de souveraineté, de fin de guerre. Après, on peut aussi peut-être se tourner vers d'autres sociétés comme des Vicat, des Heidelberg qui ont beaucoup baissé aussi, qui sont peut-être un peu moins chères.
Alors, un avis positif. Donc, ce soir sur ArcelorMittal, vous, Stéphanie, le titre termine plus forte hausse du CAC à plus 6. En revanche, beaucoup plus négatif, prudent, Julien. L'arbitre des élégances, c'est Gilles Santacreux. Gilles, graphiquement, qui a raison? Julien, plutôt prudent ou au contraire, Stéphanie, positive sur Arcelor?
Oh, qui a raison, je sais pas. J'irai pas jusqu'à arbitrer ça. La seule chose que je voulais signaler, c'est que sur Arcelor, on a une belle dynamique, qu'on est en train de tester des plus hauts que l'on a eu en 2010 et qui nous ramènerait donc sur des zones de cotation que nous n'avons plus depuis 2008. Donc, dans cette configuration, d'un point de vue court terme, ça reste haussier. On a effectivement un petit axe de faiblesse là, ces dernières semaines, mais qui ne remet pas en cause la dynamique de fond. Donc, je serais plutôt positif, hein, sur Arcelor pour un signal de continuité donc de cette dynamique.
Vinci, de son côté, remporte un contrat. Non, on en parlera dans un instant de Vinci. Je voudrais juste vous signaler, dans Valeurs Ajoutées, tout à l'heure, c'était à 16h10, un de nos experts nous parlait d'un titre dans lequel il croit à fond. C'est un acteur, vous savez, des paiements automatiques. Quand vous passez sur l'autoroute, plus besoin de sortir votre carte, tout ça est automatique et tout. C'est un groupe espagnol qui, manifestement, est en train de bien se positionner sur le marché américain des autoroutes pour automatiser aussi le paiement sur les autoroutes américaines. Alors là, vous imaginez l'ampleur du marché. Le groupe Sacyr. Les arguments de nos experts dans Valeurs Ajoutées, la séquence est disponible en replay sur notre application BFM Business. Et donc, sans transition, Vinci qui remporte un contrat, alors non pas sur les autoroutes là, mais pour installer et exploiter 25 sites de recharge électrique pour les poids lourds dans le nord de l'Allemagne. C'est pas mal, c'est une thématique montante aussi, l'électrification des véhicules, des poids lourds. Vinci, vous l'aimez ou pas, ce genre de nouvelles qui vous fait plaisir?
Oui, on aime bien Vinci, surtout qu'elle a plutôt retracé, hein, avec les hausses des prix de l'essence et donc les craintes sur les volumes sur les autoroutes. Alors c'est vrai que c'est un recul de 1,8% sur les autoroutes françaises de janvier à mai, mais bon, ça reste quand même tout à fait gérable. Et globalement, on a eu un début d'année un petit peu difficile aussi sur la construction pour des questions de climat. Le S2 devrait être un peu plus favorable. On espère évidemment que tous les plans de relance qui ont été annoncés vont enfin commencer à se mettre en place sur les infrastructures. Et effectivement, les histoires de transition énergétique en font partie. Vinci est bien positionné sur cette thématique. Donc on aime bien les acteurs, je dirais, d'une manière général, que ce soit un Vinci ou un SPI qui sont positionnés. Alors, c'est une histoire un peu différente, mais et Vinci, la valorisation, elle est, à notre sens, très attractive pour un groupe qui a quand même une grosse activité d'infrastructure.
Ouais. EasyJet, ce soir, gagne 14%. EasyJet donne son accord de principe pour un rachat par Apollo à hauteur de 5,7 milliards de livres. Apollo a surenchéri face à Castle Lake et finalement, donc, Apollo est parti pour l'emporter. 14% de hausse EasyJet. Et encore un groupe qui va se faire avaler. Il y en a beaucoup en ce moment, des OPA dans l'univers des mid-cap, ici en France aussi. Il y a Pierre Vacances, il y a Edenred, dont on entend parler, il y a Ixelles qui va se faire racheter par Thales. À qui le tour ensuite, Stéphanie, là, cet été ou au deuxième semestre ou après, qui se fera racheter et qui quittera la cote?
Alors, c'est une question d'horizon de temps, effectivement. Une dont on parle quand même souvent, c'est Abivax, hein, dans les biotech, qui a fait déjà l'objet de plusieurs fois de rumeurs, qui est bien financée maintenant, donc qu'elle est en bonne position pour éventuellement négocier. On peut avoir aussi peut-être dans la défense, moi je pense à un Exosens dont le fonds HLD a quand même s'est beaucoup désengagé. Et c'est vrai que c'est un bel acteur. On voit bien les Safran et Thales qui vont faire leur shopping, donc ça peut aussi être une idée. Voilà, après peut-être à plus long terme, moi j'imagine quand même des offres ou en tout cas c'est pas des offres, c'est peut-être des sorties de cote de la part du management, peut-être sur un Boiron très peu liquide, sur du Line Data, enfin, dont le capital voilà, a été beaucoup racheté par leur fondateur. Ça peut être des idées.
Et à la fin, il n'en restera qu'une, mid-cap en bourse. Enfin, non, mais est-ce qu'il ne restera
c'est vrai
que
pour le moment, on n'a pas beaucoup d'introductions en bourse. Donc,
et est-ce alors, attendez, c'est confirmé pour mardi, le slip français. C'est confirmé, effectivement. BFMBourse.com, d'ailleurs, pour l'article complet sur l'ampleur de cette introduction. Bon, c'est une petite, hein, mais elle est symbolique. Et puis, un 14 juillet, c'est plutôt bien joué en termes de communication. Ça nous occupera, nous-mêmes, ça nous fera des choses à raconter la semaine prochaine, évidemment, dans nos émissions. Mais est-ce qu'à la fin, il n'en restera qu'un, au sens où il n'en restera que des mid-cap pas très attractives, celles dont personne n'aura voulu racheter le capital? Est-ce qu'en bourse, il ne restera que les moins prometteuses, quelque part, à la fin?
Bah, Julien? Non, parce qu'on a quand même, peut-être pas sur le marché français, effectivement, mais d'une manière générale, je pense que les investisseurs professionnels, on ne regarde pas que le marché français, normalement. Donc,
il se passe
des choses ailleurs, effectivement. À Paris, oui, c'est un peu plus calme. Mais bon, il y a toujours des sociétés qui ressortent du lot au bout d'un moment et qui étaient sous les radars pour des questions de capitalisation boursière ou qui n'est pas délivrée tout de suite et puis qui pareil, par la suite, en tout cas, ressortent. Voilà.
Qui d'autre se fera racheter? Quelles sont les prochaines cibles d'après vous?
Moi, je pensais parler de Zegona Communication, donc c'est un peu particulier. C'est coté à Londres.
Zegona Communication.
Des anciens Virgin qui ont acheté des actifs télécom en Espagne, notamment Vodafone Espagne. Leur spécialité, c'est de restructurer et de vendre. Donc ils ont fait déjà un gros travail là-dessus sur la partie fibre. Ils sont en train de travailler sur la base de coûts de Vodafone Espagne aussi. Ils n'ont pas vocation à garder l'actif. Donc c'est vraiment des cost killers et donc c'est un actif qui sera tôt ou tard revendu. C'est un fonds ou pourquoi pas. En tout cas, ce serait le rêve des opérateurs télécom là-bas, Telefonica et Orange, se partager l'actif.
Oui, vous la connaissiez, Zegona?
Oui, parcours est époustouflant, hein, c'est une très belle performance.
Et là, elle est bien revenue, justement.
Oui, je suis d'accord, comme Orange, un certain nombre de valeurs.
C'est intéressant,
effectivement. Oui, d'accord. Indépendamment de toutes ces actus, une petite pépite pour la suite, comme ça, valeur dont vous vous dites, ça vaut le coup d'en parler quand même. Il y a Nexans que vous aimez bien parler.
Oui, je me dis que Nexans, sur ces niveaux-là, il y a quand même une forte décote par rapport à Prysmian. Effectivement, il y a ce problème du projet Grèce-Chypre, avec les tensions avec la Turquie. Mais avoir une décote de près de 40-50% par rapport à Prysmian, ça paraît peut-être un petit peu excessif. Mm-hmm. La thématique de la transmission d'électricité reste là et assez forte. Et on le voit que même s'ils ont ce sujet Grèce-Chypre, les capacités, il y a une telle demande qu'ils peuvent les utiliser pour d'autres projets. Donc sur ces niveaux-là, ça nous semble assez intéressant. Et pareil, c'est un titre qui est revenu un petit peu. Et on
Stéphanie, une petite pépite comme ça?
Une petite pépite, alors on peut peut-être se jouer dans les biotech. Alors c'est un peu plus spéculatif, mais un Nanobiotix par exemple a déjà fait un très beau parcours, mais qui là vraiment avance dans son cycle de recherche d'études cliniques. Donc ça peut être une idée, mais Nanobiotix, mais d'Incelle, dont on attend une actualité importante plus à la rentrée.
Merci. Sur les essais cliniques.
Oui, tout à fait.
D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphanie Mauger, la financière du ZES, gérant privé. Gilles Santacreux était avec nous, bien sûr, depuis boursicoté.com. Et un grand merci à Julien Kistrebert aussi de nous avoir rejoint, gérant pour Taylor AM. Dans un instant, vous retrouvez les Experts sans frontières, bien sûr. C'était la dernière émission complète de BFM Bourse cette saison, Antoine. Mais on se retrouvera pour de nouvelles émissions complètes à la fin août. D'ici là.
On espère bien.
Mais bien sûr, d'ici là, on est quand même là, en service concentré tous les jours, tout au long de l'été. Vous retrouverez, bien sûr, les analyses de nos experts de 17h30 jusqu'à 18h, sans faute, sans faille. Antoine aussi, que vous retrouverez d'ailleurs au cœur de l'été. Donc il y aura toujours un service continu quand même sur BFM Business, bien évidemment. Et le matin aussi, Étienne Brac et nos experts dans Good Morning Markets. Un grand merci à toute la team. Gwendal Dobrechal, bien sûr, notre chef d'édition en régie. C'est lui qui habille l'antenne. Si vous nous suivez à la radio, on est aussi en télé et qui habille comme ça les contenus de BFM Bourse à l'antenne. Il y a bien sûr Christophe, notre réalisateur truquiste. Il y a Jonathan qui est aux manettes là et Fabien Lerobourg qui nous accompagne tout au long de l'année. Un grand merci à toute la team et Julie Cohen-Horton, bien sûr, la grande architecte à mes côtés. Le CAC ce soir gagne 0,1%. Bonne soirée, je vous dis pas bon été parce que lundi 17h30 pour l'émission concentrée, je serai là. Donc on se retrouve lundi 17h30, 18h. Bon week-end à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.